دائما في الاستماع لإذاعة الشرق مباشرة من باريس. مرة أخرى نجدد الترحاب بكل أصدقائنا اللي التحقوا بنا الحين. طبعا كثير من الناس النساء اللي قلنا لهم أنه الحصة هذه تاع اليوم راح نتحدثوا فيها مع ضيفتنا على السيدة الحامل ومشكلة الكوفيد، تخوفات المرأة الحامل أيضا وعند ولادة المولود الجديد، الرضاعة وما شابه. Aujourd'hui, amis auditeurs, on parle d'un sujet très sensible, la grossesse et la COVID-19, avec le docteur Al-Falah Al-Qadmiri Salwa, gynécologue obstétricienne, spécialiste en chirurgie mammaire et gynécologique et membre de la Société française de sénologie et de pathologie mammaire. Bonjour, docteur Salwa, marhaba.
Bonjour Wassila, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Orient et merci pour votre invitation.
Bah, toute la joie est pour nous. Il faut savoir que votre émission ou notre émission qu'on a animée ensemble autour de l'endométriose a eu un succès fou grâce à vous.
Ah, merci, c'est gentil.
En tout cas, vous avez bien expliqué les choses. On y reviendra peut-être une autre fois sous un autre angle qu'on a au cours d'une émission. On peut pas tout traiter, bien sûr, le temps nous presse. Aujourd'hui, donc, notre sujet est la grossesse, la femme ou les femmes enceintes, plus peut-être à risque de complications liées au Covid-19. Est-ce vrai ou faux? Qu'en pensez-vous?
D'accord. Ben, avant de traiter la femme enceinte en particulier, je préfère faire un petit rappel par rapport au Covid rapide.
Absolument, absolument.
Donc le Covid, c'est un virus à ARN. Il a été mis en évidence pour la première fois en Chine fin 2019. Par la suite, il s'est diffusé à travers le continent. L'Organisation mondiale de la santé, en mars 2020, a classé la maladie Covid-19 comme pandémie. Et cette maladie a soulevé beaucoup de questions médicales, mais aussi sociétales inédites. Mmh, d'accord. Donc, le Covid est transmis par la projection des gouttelettes de salive au cours des efforts de toux ou d'éternuement, ou par le contact du visage par les mains souillées. Mmh. Elle a une durée d'incubation de 5 jours et un taux de reproduction 3,3. Ça veut dire quoi le taux de reproduction? C'est que un malade peut transmettre la maladie à 3 autres personnes qui risquent d'être infectées. La symptomatologie, le plus souvent le Covid-19 est à l'origine d'un syndrome infectieux sans risque de gravité, c'est-à-dire toux, myalgie, douleur musculaire, perte de goût, de l'odorat, des céphalées, de la fièvre. Mmh. Mais dans certains cas, il peut entraîner des tableaux très graves sous forme de pneumonie ou de syndrome de détresse respiratoire aiguë, surtout chez les patientes à risque. Et la définition des patientes à risque, c'est tout ce qui est personnes âgées au-delà de 70 ans, les personnes qui ont une maladie chronique à type d'insuffisance rénale chronique ou d'insuffisance respiratoire chronique, qui ont des cancers, qui ont un terrain d'immunodépression, et la femme enceinte.
Donc, et c'est notre sujet justement.
Exactement.
On va parler des cas particuliers de la grossesse et Covid-19.
Exactement. Donc juste pour débuter, c'est que on n'a pas assez de connaissances concernant le Covid et de ses conséquences, particulièrement au cours de la grossesse, ce qui nous a obligés à adapter dès le début de la pandémie nos pratiques au bon sens et aux données scientifiques qui sont parvenues progressivement. Donc, parlons de la grossesse. La grossesse, il faut parler sur différents angles. D'abord, au cours de la grossesse, au moment de l'accouchement et après l'accouchement avec l'allaitement, d'accord?
Absolument. Mmh.
Donc, moi, je vais parler d'abord de au cours de la grossesse. Donc, les études qui ont été publiées, même s'ils sont, ils sont pas nombreuses, mais il y en a de plus en plus. D'abord, il y a des études chinoises qui ont été publiées en premier. Par la suite, il y a eu des études chinoises et américaines. Et il y a actuellement des études françaises qui n'ont pas encore été publiées. Donc, ces études, qu'est-ce qu'ils ont révélé? Ils ont révélé que la femme enceinte, elle a la même symptomatologie que la population générale, mais elle risque, dans certains cas, présenter des tableaux plus graves, d'autant plus s'il a des comorbidités associées, c'est-à-dire l'âge avancé de la femme, la future maman au-delà de 35 ans, l'obésité, le diabète gestationnel, l'hypertension gravidique. D'accord ? Mais, par contre, ils ont conclu qu'il n'y a pas de transmission verticale du virus de la maman au bébé. C'est-à-dire, je m'explique plus, c'est-à-dire le virus ne passe pas à travers le placenta ou le cordon ombilical vers le bébé. D'ailleurs, il y a eu des études qu'on a recherché le virus chez les patientes qui ont eu le Covid dans le placenta et dans le cordon ombilical du bébé, il s'est révélé négatif. La seule explication plausible par rapport à ça, c'est que ce virus à ARN, il a besoin d'un récepteur pour s'intégrer dans les cellules de l'organisme. Et ce récepteur, il est faiblement exprimé au niveau de toute l'interface materno-fœtale.
C'est un vrai terrain à exploiter quand même.
Et c'est un vrai terrain à exploiter. Et maintenant, la question qui se pose, surtout par rapport à quel terme la femme est à risque. Il y a des études la plupart des études qui ont été réalisées surtout le troisième trimestre. Il y en a peu d'études qui ont été réalisées premier, deuxième trimestre. Quand je parle troisième trimestre, c'est au-delà de septième mois. Premier, deuxième trimestre, c'est en dessous du septième mois. Donc, pour le premier, deuxième trimestre, il y a eu peu d'études qui ont dit que peut-être qui ont constaté qu'il y a des risques de fausse couche, mais sans corrélation directe avec le Covid-19. D'accord ? Mais par contre, pour le troisième trimestre, les patientes sont plus à risque de développer des syndromes de détresse respiratoire ou de pneumonie. Et on sait très bien, en dehors du Covid, les pneumopathies, en général, chez la femme enceinte, c'est un risque de mortalité qui est très élevé, et ceci dû au fait que la femme enceinte, il y a des modifications physiologiques, immunologiques et cardio-respiratoires qui se font au cours de la grossesse, d'où que le terrain de la femme enceinte est un terrain à risque. Et ça a été démontré qu'au cours du troisième trimestre, que les femmes peuvent présenter des risques de prééclampsie, d'hypertension gravidique. Il y a plus de risques de césarienne, ce qui reste logique pour extraction fœtale, pour sauvetage maternel et fœtal. Il y a plus de risques de prématurité et plus de risques de rupture prématurée des membranes.
D'accord. Donc ça concerne les risques pour le bébé et la maman, les complications. La prise en charge, comment ça s'effectue, docteur ?
Ok. La prise en charge, par exemple, une patiente qui a le Covid. Je parle premier, deuxième trimestre, c'est-à-dire avant le septième mois. Cette patiente, elle doit contacter son médecin traitant pour annoncer qu'elle a des signes de Covid, d'accord ? Ou aller en salle de là où il est suivi, mais par contre, il faut qu'elle les prévenir pourquoi elle vient. Comme ça, ils vont organiser une salle de façon à qu'elle soit isolée par rapport à d'autres patientes pour diminuer le risque de contamination des autres, d'accord ? Donc, une patiente qui a les premiers signes de Covid sans signe de gravité ne sera pas hospitalisée de façon systématique. On fait le test Covid. Si elle n'a pas de signe de gravité, elle rentre chez elle, elle sera confinée chez elle avec son mari, et chez elle, les personnels de santé vont le contacter toutes les 48 heures, et il faut qu'elle surveille de façon active sa température toutes les 48 heures, et il faut surtout que le personnel de santé l'informe des risques de gravité pour lesquels, si jamais elle a une difficulté respiratoire, une dyspnée ou majoration de la température, il faut qu'elle contacte le 15, le SAMU.
Donc elle rentre chez elle sans traitement, juste à surveiller la température.
Okay. Après, si elle a des signes de gravité, donc il y a une indication hospitalisée. Mais chez elle, il faut vraiment qu'elle respecte les
confinement.
Voilà, les consignes. C'est-à-dire, si elle a avec elle son entourage, il faut qu'elle soit dans une chambre spécifique, de préférence qu'elle a aussi des toilettes spécifiques, mais si elle n'a pas le choix, elle peut partager les toilettes avec les autres, mais il ne faut pas qu'elle touche tout ce qui est objet commun.
En aseptisant, bien sûr.
Exactement, en désinfectant, en portant le masque, et on déconseille vivement les visites, sauf si vraiment c'est indispensable.
Donc ça, ça concerne la prise en charge. On arrive à l'accouchement. Donc c'est un événement majeur pour la maman et le bébé et toute la famille, j'imagine. La peur.
Ouais.
Vous pouvez imaginer la peur d'une contamination éventuelle.
Oui.
Qu'en dites-vous?
Alors, au moment de l'accouchement, l'accouchement, il faut, on a insisté, toutes les sociétés savantes, ils ont insisté sur ça, il faut quand même assurer, c'est un moment privilégié pour la dame et pour tout le couple, donc il faut assurer des conditions sereines pour le bien-être de la patiente plus tard en postpartum, ou aussi pour assurer une relation mère-enfant de bonne qualité. Donc, ce qui est préconisé, que la maman peut accoucher, il faut qu'elle porte un masque, surtout en présence des soignants quand ils viennent l'examiner ou au moment des efforts expulsifs, mais en aucun cas, elle lui est imposée de porter le masque. C'est-à-dire, si jamais elle se sent pas bien en portant le masque au moment des efforts expulsifs, c'est aux soignants de porter de faire toutes les précautions, c'est-à-dire porter un masque FFP2 FFP2 et Charlotte, lunettes de protection, surblouse et tout ça. Par contre, le mari, il peut assister à l'accouchement si il ne présente pas, bien sûr, de
bien sûr,
de COVID,
c'est évident.
Il faut qu'il reste confiné en salle d'accouchement avec sa femme. C'est-à-dire, il n'a pas à se déplacer, faire des allers-retours. Il faut qu'il respecte les règles d'hygiène aussi. Il n'y aura pas de souci. Et au moment de l'accouchement, lui, il est obligé de porter par contre le masque.
Et donc, pour la prise en charge du bébé, elle s'effectue comment? Donc, c'est encore plus rigoureux que pour l'accouchement, j'imagine.
Oui, c'est plus rigoureux pour l'accouchement, donc il faut appeler le pédiatre au moment de l'accouchement, parce qu'on sait très bien si jamais, on sait jamais s'il y a une décompensation respiratoire. Mais attention, l'impact fœtal n'est pas dû au virus directement. L'impact fœtal, il est dû à l'hypoxémie secondaire, au fait que la maman, elle a eu des problèmes respiratoires si jamais elle a présenté un tableau clinique qui est difficile. Mais le virus n'agit pas sur le développement du bébé, c'est une action indirecte.
D'accord.
Voilà.
Donc, mais un bébé qui est un nouveau-né peut contracter le virus ou pas?
Un nouveau-né, il peut contracter, pas avec les données qu'on dispose actuellement. Peut-être il y aura d'autres choses. Mais avec les données actuelles, il n'est pas transmissible au moment de l'accouchement, sauf il est transmissible par voie aérienne, c'est-à-dire soit c'est la maman qui lui transmet, soit c'est que c'est l'entourage, voilà. C'est pas l'accouchement qui fait qu'il a le virus.
Et là on arrive au moment de propice, l'allaitement. Donc, c'est le moment où il y a le contact direct avec la maman.
Exactement. Donc, le Collège national des gynéco-obstétriciens de France, il a insisté, et aussi la Société française de néonatologie, insisté qu'il n'y a pas de séparation enfant-maman et que l'allaitement est autorisé. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été menées avec recherche du virus dans le lait maternel chez des patientes qui ont été déjà infectées. Il n'y a pas de virus dans le lait maternel. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la patiente, elle peut allaiter son bébé sans aucun problème. Mais il faut qu'elle respecte. Elle porte le masque au moment de l'allaitement. Bien sûr, les règles d'hygiène, barrières, désinfection des mains, lavage des mains assez fréquent et tout ça. Et surtout, la nuit, par contre, il faut qu'elle mette le berceau à 2 mètres d'elle. Comme ça, si jamais elle tousse le soir, pour éviter tout ce qui est projection de gouttelettes.
Bien sûr.
Et donc, après, par contre, on préconise, une fois la dame accouchée, sortir rapide chez elle au bout de 48 heures avec un suivi à domicile, une hospitalisation à domicile obstétricale ou néonatologique. Si c'est pas possible, c'est une sage-femme en lien avec un pédiatre, parce que 48 heures après la sortie, il faut qu'un pédiatre voit le bébé et à J8 aussi, 8e jour.
De toute façon, tout peut s'organiser avant l'accouchement. Une mère organise tout ça avant l'accouchement, comme ça, après son retour à la maison, tout est fait.
Mais bien sûr, elle fait rien en fait. C'est toute l'équipe médicale qui organise tout pour elle.
Voilà. Juste à vous demander, comme le temps nous presse, hélas, on a beaucoup de choses à dire. Peut-être on y reviendra une autre fois pour atteindre quelques points qu'on n'a pas évoqués. Pour finir, juste les précautions à prendre et bien sûr les femmes enceintes qui travaillent, télétravail ou pas, arrêt de travail.
En 2 minutes. Alors, c'est que premier et deuxième trimestre, donc avant les 7e mois, le télétravail est préconisé. Par contre, on ne peut pas obliger l'employeur de lui faire le télétravail s'il estime qu'elle a toutes les conditions d'hygiène au sein de la société. Et l'arrêt de travail, dans ce cas, bien sûr, en dehors, si elle n'a pas d'autres pathologies particulières, n'est pas justifié. Mais par contre, à partir du 3e trimestre, on peut donner facilement des arrêts de travail. Parce qu'on sait très bien que la patiente, elle risque encore plus à partir du 3e trimestre.
Donc, à bon entendeur.
Oui, exactement.
en tout cas, les employeurs ne seront pas contents de m'entendre dire ça, mais il en va de la santé de la maman et du bébé, donc il faut bien informer mesdames.
Non, mais le plus souvent, ils sont flexibles, ils l'acceptent. La patiente voit son médecin de travail. Nous, en tant que gynécologue, on leur fait une attestation comme quoi elle est bien enceinte et tout. Et ils arrivent toujours à s'arranger en télétravail.
Donc, le télétravail n'est pas contre-indiqué pour la dame et elle peut travailler jusqu'à quel mois?
Normalement, le congé de maternité, s'il n'y a pas de complications, c'est à partir de 35 semaines d'aménorrhée.
Sixième mois.
Non, au-delà.
Au-delà, parce que 26 okay. semaines, ouais. Je suis plus clémente, moi, que la loi. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Un dernier mot, parce que le temps nous...
Oui.
Voilà.
Je vais passer un dernier mot.
Oui.
C'est que ce que je peux dire, c'est que 2020 était difficile pour tout le monde, sur tout le plan physique, psychique, financier, mais on a appris beaucoup de choses et on a tiré beaucoup de leçons. J'espère vraiment que 2021 sera une récompense pour l'humanité après cette épreuve très difficile pour tous les êtres humains. Le pire est derrière nous, mais restons vigilants et avançons ensemble vers un monde meilleur.
Merci beaucoup, docteur Salwa Al-Falah Al-Qadmiri. Je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricienne, spécialiste en chirurgie mammaire et gynécologique et membre de la Société française de sénilogie et de pathologie mammaire. Je vous dis à très bientôt et on vous a préparé, Mohamed vous a préparé une belle chanson de Kadhem Sahel, puisque vous l'aimez, Moutem Marida, ça vous va?
C'est très bien, merci beaucoup.
À très bientôt.
C'est parfait.
À très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt, docteur.
Au revoir.